Je vous remercie en tout cas pour ce que vous avez rempli sur les feuilles ce matin. Alors, je n'ai pas tout lu dans le détail, mais j'ai parcouru. J'ai cru comprendre qu'il y avait de la matière à discuter ce matin. Il va y avoir aussi de la matière à synthétiser tout ça. Et d'emblée, dans les prochaines semaines, je voudrais vous encourager à prier régulièrement pour tout ce que vous avez noté. Parce que si nous ne prions pas pour cela dans nos groupes de maison, lors des réunions de prière, il n'y aura aucun changement. Et la première des choses à demander à notre Dieu est ce verset 2 de Romains 12, qu'il renouvelle notre intelligence pour penser autrement, différemment l'Église. Plus comme Dieu le veut et moins comme nous le voulons. L'Église appartient à Dieu et c'est sa volonté qui compte. Et c'est sa parole qui fait autorité et non nos préférences. Alors que notre première prière puisse aller dans ce sens-là, qu'il renouvelle notre intelligence pour que nous puissions penser autrement l'Église et un peu plus comme Dieu le veut. Ce soir, nous allons poursuivre notre lecture du chapitre 12, toujours sur ce thème de ce week-end, frères et sœurs, selon l'Évangile. Et je vous invite à suivre avec moi la lecture à partir du verset 9, Romains chapitre 12, et nous lirons les versets 9 à 16. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Je voudrais encore remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Prions ensemble. Merci parce que ce soir, nous pouvons encore entendre ta parole et entendre ta voix s'adresser à nous. Après toute cette journée, après tout ce que nous avons vécu, après tout ce qui a été déjà discuté auparavant, nous prions que ton esprit agisse encore dans ce moment précis, au moment où ta parole est prêchée, au moment où nous voulons tout particulièrement être attentifs à ce que tu dis à notre Église. Merci Seigneur, parce que c'est aussi dans ces moments-là que nous nous rendons compte du privilège que nous avons de te connaître. Ce privilège d'entendre un Dieu qui nous parle, le Dieu vivant, le Dieu créateur, celui qui nous aime d'un tel amour. Merci Seigneur, et vraiment bénis ce moment et conduis-nous vers ce que tu veux pour l'Église de Saint-Maur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Si nous tenons compte de la traduction que je viens de lire, nous avons en français 22 impératifs. Et je dis bien en français parce qu'en grec, le verbe n'est pas toujours exprimé. 22 impératifs, c'est beaucoup. Et encore, je n'ai pas compté les versets qui suivent. Dans l'Église, on ne chôme pas. 22 impératifs qui vont dans le sens de l'amour. Et c'est le maître mot dans notre texte, l'amour. Et c'est le maître mot aussi dans l'Église, l'amour. L'amour est développé à travers tous ces impératifs, ces 22 impératifs, Et la suite aussi parle d'amour. Et souvenons-nous encore de ce premier verset du chapitre. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Comment pouvons-nous utiliser notre corps et toute notre personne, toutes nos facultés, si ce n'est en mettant l'amour en action, en particulier envers nos frères et sœurs en Christ? Jésus n'a-t-il pas donné toute sa personne pour nous aimer? Jusqu'à ce qu'on, son propre corps, pendu sur une croix, livré à la mort. Il est très important, avant de pouvoir aborder de plus près ces impératifs, de se référer d'abord à ce que Dieu a fait pour nous, à sa compassion à notre égard, à son amour tel que nous l'avons chanté, cet amour en forme de croix. Vous avez déjà entendu une expression comme ça ? L'amour de Dieu en forme de croix. Et c'est pour cela que je veux commencer par évoquer son amour pour nous. Et j'aimerais simplement vous interroger ce soir, et j'aimerais pouvoir entendre quelques réponses de votre part. Comment savez-vous que Dieu vous aime ? Comment êtes-vous certain que Dieu vous aime? Je vous écoute. Dites-moi. Valérie? Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, effectivement, Jean 3,16. Romains 5,8. On l'abordera tout à l'heure, effectivement, à propos du fait que Dieu nous a prouvé son amour. Mais je ne recherche pas forcément à ce que vous me donniez des références. Je vous demande simplement, je vous pose cette question, comment vous savez que Dieu vous aime ? Comment vous le vivez ? Par sa présence. Parce qu'il est présent, vous savez qu'il vous aime. D'accord ? Oui ? Par les personnes qu'il met sur ton chemin. Donc selon... Alors quel type de personne ? N'importe quelle personne ? D'accord. D'accord. Donc effectivement des rencontres édifiantes. Comment savez-vous que Dieu vous aime ? Mmh. Dieu s'est toujours montré persévérant, fidèle. Oui. Malgré, pardon. Merci, on a déjà commencé un temps de discussion là, mais je vais quand même poursuivre. Peut-être une question un peu plus difficile. Comment savez-vous que Dieu vous aime quand la vie devient difficile ? Comment savez-vous, alors là j'attends plus de réponses, mais je vous laisse réfléchir. Comment savez-vous que Dieu vous aime quand la vie devient éprouvante ? Comment savez-vous que Dieu vous aime quand vous souffrez dans votre corps ou peut-être dans la situation présente dans laquelle vous vous trouvez ? Comment savez-vous que Dieu vous aime ? À quoi vous accrochez-vous pour affirmer que Dieu vous aime encore, malgré les circonstances ? Et si tragiquement nous perdons un être cher, comment savons-nous que Dieu nous aime toujours ? Je fais référence à des situations de vie bien réelles. Si nous perdons un être cher, comment savons-nous que Dieu nous aime toujours ? Dans ces moments de douleur intense, je crois que nous nous demandons plutôt où est Dieu ? L'amour de Dieu ne signifie pas la fin de nos souffrances. Ce n'est pas en fonction des circonstances que nous vivons que nous pouvons nous assurer ou non de l'amour de Dieu. Une chose est certaine pour tous les enfants de Dieu, pour tous ceux et celles qui ont confiance en Jésus-Christ. L'amour de Dieu ne cessera jamais à leur égard. Même lorsque nous perdons l'être que nous aimons le plus. Autre question, peut-être tout aussi difficile, comment savons-nous que Dieu nous aime encore alors que nous avons tant de fois échoué dans notre obéissance ? Est-ce que je ne commets pas le péché de trop qui fait que Dieu ne veut plus de moi ? Comment savons-nous dans ces conditions que Dieu nous aime toujours ? Et que son amour dure à toujours. La réponse, il me semble, est dans le texte que je voudrais relire avec vous, et qui se trouve précisément dans Romains chapitre 5. Je commence au verset 1. « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Et le verset 11, bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Je sais que j'ai mentionné ce texte plusieurs fois ces derniers temps. Mais la réponse à toutes les questions que j'ai posées auparavant se trouve ici. Au cœur de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est comme ça que je sais que même dans la pire des tragédies que je peux traverser, Dieu m'aime toujours. C'est comme ça que je sais que même si je me sens lamentable devant lui parce que j'ai tellement péché à son égard, je me suis tellement éloigné de lui, je sais qu'il m'aime toujours. Alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ainsi que même dans les tempêtes les plus virulentes de notre vie, même dans les drames qui nous frappent sans crier gare, même embourbés dans notre péché récurrent et allant d'échec en échec, nous savons que Dieu nous aime toujours. Cet amour en forme de croix et déversée dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est là. Et ça ne part pas. Si vous vous êtes considérablement éloigné de Dieu, cet amour devrait vous ramener à la maison, vous ramener à la repentance, vous ramener auprès du Dieu qui fait grâce. Et je ne vais pas en dire davantage, mais je voulais de nouveau que nous prenions le bon point de départ avant de nous arrêter sur les impératifs. Et le bon point de départ, c'est l'amour de Dieu pour nous. L'apôtre Jean l'évoque ainsi dans 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 11. « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Et le verset 19, « Quant à nous, nous aimons, parce que Dieu nous a aimés le premier. » À chaque fois que nous envisageons des impératifs qui concernent le fait de nous aimer les uns les autres ou d'aimer les autres hommes, nous devons toujours prendre comme point de départ l'amour de Dieu pour nous. Et nous souvenir à quel point Dieu nous a aimés. Cet amour en forme de croix. Et c'est maintenant peut-être le cœur rempli de l'amour que Dieu a pour nous que nous pouvons envisager les 22 impératifs qui concernent notre amour pour les autres. Et en particulier notre amour pour les frères et sœurs en Christ. Un des effets très concrets que nous, quand nous mettons notre foi en Jésus, c'est que nous devenons une nouvelle créature. Dieu change notre cœur. Et je l'ai vu chez d'autres et je l'ai vu chez moi aussi. En devenant chrétien, nous nous mettons à aimer les autres. Plus d'une fois, dans certains témoignages, j'ai entendu qu'un tel détestait les chrétiens avant sa conversion. Et qu'en croyant en l'évangile de Jésus-Christ, sa haine a laissé place à l'amour. Dans ma propre expérience, j'ai vu l'amour grandir dans mon cœur peu après ma conversion. Et sur le coup, j'avais envie d'aimer tout le monde. Depuis, une fois sorti de ce premier élan, je me suis rendu compte que j'avais encore du chemin à parcourir et qu'il serait plus juste aujourd'hui de dire que j'apprends avec l'aide de Dieu, à aimer le plus de personnes possible. Est-ce que ce que je suis en train de raconter correspond un peu à votre expérience ? Que peu de temps après votre conversion, vous êtes mis à aimer les gens, et peut-être particulièrement à aimer vos frères et sœurs. Nous n'avons pas à chercher très loin pour savoir comment aimer nos frères et sœurs. Les impératifs de Romains 12 nous donnent suffisamment d'applications pour toute notre vie. Et je ne vais pas tous les aborder, parce qu'il y en a 22, mais marquer un temps d'arrêt sur certains de ces impératifs qui rejoignent le thème de notre week-end. Et je vous invite à pouvoir suivre avec moi. Je commence par le verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Alors, ça paraît peut-être une évidence de dire cela. La version Semeur traduit « que votre amour soit sincère ». Ça veut dire qu'il existe un amour qui n'est pas sincère ? Un amour hypocrite ? Et comme partout dans notre société, nous pouvons croiser des gens qui font semblant de nous aimer, qui semblent aimables devant nous et médisants en notre absence. Mais l'amour tel que le Seigneur nous le commande est loin de cette mascarade. L'amour de Dieu, à notre égard, en tout cas, n'est certainement pas hypocrite. Il est vrai, il est entier, il est pur. Et notre amour pour les autres, c'est vrai, n'est pas toujours pur. mais il doit être au moins vrai. Quand l'apôtre Paul encourage que votre amour soit sincère, oui, notre amour n'est pas toujours pur à l'égard des autres, mais il doit être au moins vrai. Et les impératifs qui suivent décrivent cet amour sans hypocrisie. Je poursuis avec la suite du verset 9. « Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. » Voler un beau bijou par amour pour sa bien-aimée, ou pour son bien-aimé peut-être, ce n'est pas de l'amour, c'est de la bêtise. Voler par amour pour quelqu'un, ce n'est pas de l'amour, c'est une bêtise. Parce que l'amour véritable ne fait rien de malhonnête. L'amour va toujours dans le sens du bien de l'autre. C'est toujours le bien de l'autre qui prime. C'est toujours l'intérêt de l'autre qui nous préoccupe. Et c'est avec horreur que nous devons envisager le mal, tant cela est contraire à ce que Dieu veut faire de nous. L'amour ne peut admettre une quelconque compromission avec le mal. Nous en avons tous fait l'expérience. Dès lors que nous faisons du mal à quelqu'un, ne serait-ce que par des paroles blessantes, nous avons arrêté d'aimer. Il y a une incompatibilité entre l'amour et le mal. Je passe au verset 13 qui nous dit « Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. » Nous l'avons vu ce matin, certains ont reçu de Dieu un don particulier pour donner généreusement et pourvoir ainsi aux besoins des membres du peuple de Dieu. Mais ici, l'impératif s'adresse à tous, parce qu'il est à la portée de tous. Et dans certains contextes, cet impératif de pourvoir aux besoins des autres frères et sœurs concerne des besoins matériels. Et c'est une preuve d'amour que de chercher à aider telle sœur ou tel frère dans une situation de précarité. Je pense à une autre situation où tel couple avait besoin d'une voiture et un membre de leur église leur a prêté un de leurs véhicules pour un certain temps. Oui, pour voir aux besoins, ça peut passer par là, par le prêt de ce que nous possédons. Nous pensons aussi à tel frère ou telle sœur qui cherchait un logement et qui ont été généreusement hébergés. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Et encore tout à l'heure à table, notamment avec Samuel, nous discutions de ces missionnaires qui sont au loin et où nous pouvons pourvoir à leurs besoins, les soutenir par rapport à leur champ de mission, par rapport à leurs besoins propres en tant que missionnaires. Pourvoyez aux besoins des saints, c'est-à-dire des autres frères et sœurs. Et quand tout à l'heure je mentionnais cet exemple du frère qui cherchait un logement et qui finalement a pu être hébergé par une sœur, nous rejoignons ici l'exercice de l'hospitalité évoqué dans ce verset-là. Nous parlons bien ici d'être disposé, quand on parle d'hospitalité, d'être disposé à héberger un frère, une sœur, comme cela se faisait à l'époque. Ce n'est pas simplement le fait d'ouvrir sa maison pour accueillir et pour passer du bon temps. Mais c'est aller jusqu'à offrir son logement et pouvoir permettre à quelqu'un d'être hébergé. Sommes-nous prêts à héberger des frères et sœurs qui sont juste de passage, quelle que soit la taille de notre maison, s'il faut dépanner? Sommes-nous aimants jusqu'à ce point? C'est l'amour sans hypocrisie. Je passe à un impératif que l'on retrouve au verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Et là, le sujet devient sensible, parce que ces deux impératifs sont un vrai test qui révèle si notre cœur est animé d'amour ou non pour les autres. Étant liés les uns aux autres, les chrétiens partagent avec raison les joies et les peines. Si l'un est dans la joie, les autres se réjouissent avec lui. Et si l'un pleure, les autres pleurent avec lui, compatissent à sa peine, à sa douleur. Mais qu'en est-il quand mon frère ou ma sœur a, obtient ce que je n'ai pas ? Et je crois que dans ces moments-là, nous avons besoin de toute l'aide de Dieu pour éprouver de la joie là où notre propre cœur est en peine pour le même sujet. Tel frère ou telle sœur qui annonce qu'ils vont se marier, mais en fait, quel coup dur pour le célibataire qui a tellement envie de rencontrer quelqu'un. Tel couple qui annonce la nouvelle d'une grossesse, mais quel coup dur pour le couple qui attend depuis si longtemps d'être parent. Comment se réjouir avec ceux qui se réjouissent dans ces circonstances ? Et je crois que seule l'œuvre du Seigneur en nous peut nous conduire à une authentique joie dans ces moments-là. Cela ne viendra pas forcément spontanément. Et vraiment, nous ne pouvons pas reprocher à des frères et sœurs de ne pas se réjouir avec ceux qui se réjouissent alors qu'eux-mêmes ont le cœur en peine. Mais soyons certains que si Dieu ordonne de manifester de l'amour de cette manière, il peut produire en nous le vouloir et le faire. Et quand cela se produit, nous pouvons témoigner que ce n'est vraiment pas nous, mais vraiment Dieu qui a changé notre cœur pour privilégier le bonheur de l'autre avant le sien, pour pouvoir me réjouir avec l'autre alors que peut-être au fond j'aurais juste envie de pleurer. De même, pleurer avec ceux qui pleurent n'est pas à la portée de tous. J'ai entendu certaines personnes me dire, pas nécessairement ici, hein, certaines personnes me dire en fait, qu'elles n'arrivaient pas à éprouver de la peine quand elles avaient en face d'elles une personne qui souffrait. Pas de compassion, pas d'empathie, rien. Et là aussi, l'impératif s'adresse à tous, pleurer avec ceux qui pleurent. Là aussi, cela peut prendre du temps, en fait, pour que cela vienne. On ne pleure pas sur commande. Et être aux côtés de ceux qui pleurent, ce n'est pas facile. Nous ne savons pas toujours quoi dire. Mais parfois, nos larmes valent mieux que nos mots. Pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez encore quand c'était très difficile pour Stéphane et Laura. Vous vous souvenez comment nous les avons entourés, comment nous avons pris le temps de prier pour eux. Et certains ont littéralement pleuré avec eux. Là, nous vivons concrètement cet impératif. Pleurer avec ceux qui pleurent. Un tel amour pour les autres n'est possible que si nous avons été aimés par Dieu en premier. Si nous n'avons jamais vécu, jamais fait l'expérience d'un amour qui se donne pour nous, il nous est impossible d'aimer à notre tour de cette manière, de manière sacrificielle. Si nous l'avons jamais vécu, si nous l'avons jamais ressenti, jusque dans nos tripes, à quel point Dieu nous aime, il nous est impossible d'aimer les autres comme Dieu nous le demande. Si nous ne sommes même pas certains que Dieu nous aime, il nous est impossible d'aimer les autres comme il nous le demande dans ce texte. Et ce matin, je l'ai dit, dans l'Église, il n'y a pas de moi d'abord. Il n'y a pas de « je n'ai pas besoin de vous ». Dans l'Église, il y a les autres d'abord. Il y a « j'ai besoin de vous ». Alors prions que dans notre Église en particulier, nous puissions vivre ce que l'apôtre Paul dit ici aux chrétiens de Rome. Que nous puissions vivre en particulier, et je termine avec cet impératif au verset 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Si ce matin nous avons vu l'image du corps, ici c'est l'image de la famille qui est mise en avant. Celles et ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ sont des frères et des sœurs. Et si dans notre monde, les frères et sœurs ne s'entendent pas toujours bien, dans l'Église, les frères et sœurs qui se savent aimer de Dieu vont, bien sûr, par l'œuvre du Saint-Esprit en eux, s'aimer les uns les autres, d'un amour toujours grandissant, d'une affection toujours plus profonde. Et je le crois que dans le temps, avec les années qui viennent, notre amour sera toujours plus grand les uns à l'égard des autres. Parce que l'Esprit est à l'œuvre. Alors je vous avoue que je ne sais pas exactement comment conclure après avoir dit tout cela. Mais j'ai quand même une idée. Tous ces impératifs, bien sûr, nous font automatiquement penser à Jésus. L'amour sans hypocrisie, c'est lui. C'est lui qui a le mal en horreur. C'est lui qui s'attache au bien, bien évidemment. C'est lui qui est plein d'affection à notre égard et qui nous a particulièrement estimés pour pouvoir accepter de s'abaisser pour nous. Alors assurément, c'est lui qui a du zèle et pas de la paresse. C'est lui qui est plein de ferveur, animé par l'Esprit, toujours dévoué au service de son Père. Et effectivement, quand on voit même dans l'idée de l'espérance et d'être patient dans la détresse, ah oui, combien notre Seigneur Jésus a été patient dans la détresse. Et il a persévéré dans la prière. Est-ce qu'il a pourvu aux besoins de ses frères et sœurs plus qu'il ne faut? Il a donné sa propre vie pour ses frères et sœurs. Est-ce qu'il a exercé l'hospitalité? Il nous accueille dans son royaume. Je crois qu'il n'y a pas meilleure hospitalité. Est-ce qu'il a béni ceux qui l'ont persécuté? Est-ce qu'il les a bénis et ne les a pas maudits? En tout cas, sur la croix, nous avons toujours cette référence, c'est cette prière qu'il a adressée au Père en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Est-ce qu'il s'est réjoui avec ceux qui se sont réjouis? Je pense que oui. On le voit dans les évangiles. Est-ce qu'il a pleuré avec ceux qui pleurent? Je crois qu'on le voit aussi dans les évangiles. Le moment où Lazare est au tombeau, il y a quand même ce verset tout court qui nous dit « Jésus pleura ». Et vous avez cette exhortation de ne pas aspirer à ce qui est élevé, mais de se laisser attirer par ce qui est humble. Combien le Seigneur Jésus a montré cette humilité. Oui, il avait toutes les raisons de rester dans sa position élevée. Il est le Seigneur. Mais il a choisi volontairement ce qui est humble, de pouvoir s'humilier, de pouvoir s'abaisser Alors oui, quand je lis ces impératifs, je pense aussi à notre Seigneur Jésus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si ces impératifs nous sont adressés, c'est pour que nous puissions lui ressembler. Et l'œuvre merveilleuse de Dieu, c'est qu'il fera en sorte qu'on lui ressemble. Prions. Qui est réellement qualifié pour pouvoir parler de ton amour et pour pouvoir parler de ce sujet qui est l'amour. Nous sommes tous en chemin. Nous apprenons encore. Je l'ai dit un peu plus tôt, j'apprends à aimer avec ton aide le plus de personnes possible. Mais merci Seigneur parce que tu nous as montré cet amour en forme de croix. Tu nous as montré combien tu nous aimes, et ça, quelles que soient les circonstances que nous avons connues ou que nous connaîtrons. Et parce que tu nous as tant aimés, Seigneur, nous avons aussi, de ta part, cette capacité de pouvoir aimer nos frères et sœurs. Et si nous avons encore des progrès à faire, et nous l'avons tous, nous voulons compter sur ton œuvre en nous, pour que nous puissions tous davantage ressembler à Christ. Oui, c'est bien lui qui a aimé jusqu'à l'extrême, jusqu'à donner sa vie pour nous. Et nous voulons te remercier parce que cela reste toujours l'exemple suprême pour nous. Que tu conduises encore les temps de discussion que nous allons avoir. Donne-nous un regard clairvoyant aussi sur notre propre Église et sur comment nous pouvons obéir à ces impératifs que tu as laissés dans ta parole. Et assurément, Seigneur, si tu les as laissés dans ta parole, c'est pour notre bien. Et assurément, eh bien, si nous allons dans le sens de ces impératifs, c'est aussi pour ta gloire. Alors donne-nous, Seigneur, d'y obéir, de pouvoir le vivre avec toute la joie qui est possible dans les moments de joie et avec les pleurs qu'il faut pour accompagner ceux qui pleurent. Merci encore, Seigneur, parce que nous le croyons. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen.